reprenons notre réflexion au point où nous nous sommes quittés. Quand je disais que la grande question ne pas esquiver, c'est l'insuffisance souvent, hélas trop souvent, de notre qualité spirituelle de berger, de pasteur et de leader. Et je m'apprêtais à me servir du cas précis de ce qui vient de nous arriver au Canada pour illustrer ma pensée. Voyez, un peuple de fidèles comme le nôtre, qui ne semble pas répondre comme il le faudrait et le devrait depuis plusieurs décennies aux multiples efforts assidus de l'épiscopat, du clergé, des religieux, religieuses, des leaders laïcs de chez nous. J'admets qu'il y a d'innombrables individus qui ont été profondément renouvelés depuis Vatican II sur le plan spirituel. Mais comme je l'ai écrit dans cette lettre ouverte et fraternelle à l'épiscopat, en tant qu'Église-institution, notre leadership spirituel continue à décliner fort dangereusement, tant à d'intra qu'à d'extra. Et les plus avisés, et nous ne sommes pas les seuls à le penser, les plus avisés, ceux qui sont vraiment spirituellement libres de s'exprimer, le constatent et le déplorent. Et c'est pourquoi, en bien des milieux, on appréhendait, dans bien des milieux ecclésiastiques, la visite de Jean-Paul II. Qu'est-ce qui va se produire? Est-ce que ça va être un échec? Que va-t-il pouvoir faire ou dire? Et Jean-Paul II vient, et c'est l'explosion. L'allumette dans le baril de poudre. Pour reprendre l'expression que j'ai utilisée dans ma première interpellation à mes frères prêtres. Bien, ça doit nous faire réfléchir. C'est exactement le même peuple qu'avant la venue de Jean-Paul II. Celui qu'on a essayé désespérément d'enflammer, sans succès. Et lui, Jean-Paul II, pasteur énergisé et énergisant, passe tout bonnement et ça fait exploser. En 12 jours, il démontre que le problème chez nous n'est donc pas d'abord dans le peuple des fidèles, puisque c'est le même peuple. C'est pas nous autres qui l'avons préparé de façon extraordinaire. On n'avait même pas, dans bien les milieux, confiance au succès de cette visite. Donc le problème chez nous n'est pas d'abord dans le peuple des fidèles, mais dans le manque évident de bonnes allumettes, de pasteurs assez nombreux et ardents de son ardeur divine pour mettre le feu aux poudres. Je laisse à chacun le souci de faire son inventaire des allumettes de chez nous. Sont-elles trop usées? Ont-elles déjà brûlé, humide, mouillé? Une bonne allumette, on le sait, a normalement toute sa force dans le produit spécial dont on l'imprègne et qui la rend susceptible de s'enflammer par friction. C'est ça une allumette. Où sont donc chez nous nos bergers et nos pasteurs allumettes? Vraiment enduits. Qui prennent et mettent le feu divin au simple contact. Dans quel évêché ou archevêché, je vous le demande, se donne-t-on encore vraiment aujourd'hui la peine de vérifier si tous les bergers, pasteurs et leaders du diocèse sont ou non imprégnés? À mon avis, vous savez, on insulte le Seigneur quand on tente toujours d'expliquer nos échecs en Église, ici ou ailleurs, par les bobos croissants du monde moderne. Le Seigneur nous a précisément confié la bonne nouvelle et donné l'Église pour être en mesure de s'attaquer avec succès aux maux du siècle et de chaque siècle l'un après l'autre. le 20e comme le 10e. Peut-on croire que le Seigneur nous aurait mal équipés pour ce siècle ici? Allons-y. La confie à l'Église et au rassemblement de la communauté tout ce qu'il faut. Il ne nous aurait pas entraînés, ce bon papa d'amour, ce Jésus d'amour, cet esprit d'amour ne nous aurait pas entraînés dans une mission impossible. Allons-y. Voyons un peu sérieux, et surtout un peu plus humble. Nos moyens à nous sont nettement insuffisants, d'accord? Conteste pas ça. Il est grand temps qu'on s'en rende compte. Et les siens, au contraire, sont illimités, tout-puissants et aptes à triompher des défis complexes et multiples qui nous provoquent. Et tant que nous n'irons pas chercher sa flamme et son énergie là où elle est, tant que nous nous contenterons d'analyser la poudre, de lui trouver une qualité moindre qu'autrefois, pour expliquer qu'elle ne saute pas, nos évaluations seront incomplètes, trompeuses et négatives, bien malgré. Ne l'oublions pas, mes frères et mes sœurs dans le Christ. Entre nous, on peut bien continuer à esquiver consciemment ou pas la vraie question. Nos supérieurs immédiats sur Terre peuvent être émus par nos arguments, nos statistiques, notre vocabulaire, puis une présentation originale de nos redditions de comptes. Pastoraux. Ils peuvent même se laisser eux aussi séduire, consoler ou fermer les yeux. Mais attention, la vraie de vraie reddition de compte viendra un jour. On ne pourra plus l'esquiver. Elle se fera en présence du pasteur des pasteurs. Et lui, il connaît. Il ne sera pas intéressé, le Seigneur, par nos tableaux statistiques, nos photocopies, nos documents annexes ou nos alibis pour expliquer nos demi-succès ou nos échecs. Tout en connaissant d'avance nos vraies réponses, il nous posera quand même, par gentillesse, ses vraies questions. Et ce sera plus temps, mes amis, d'improviser, de bégayer de culpabilité ou de jouer d'astuce. Je pourrais arrêter tout mon enseignement. Mais il y a encore d'autres points. Alors voilà, je termine cette première partie, mes amis, en vous disant en résumé, la force de l'Église, ça a été, depuis Vatican II, une meilleure approche au monde. Notre faiblesse, c'est notre calibre spirituel insuffisant. En tant qu'agent de pastoral, par une approche trop faible envers le Seigneur. Depuis Vatican II, il s'est fait en Église d'excellentes choses, je l'ai dit, les efforts ont été bien intentionnés, louables, énormes. Malheureusement, les résultats profonds demeurent encore insuffisants pour accréditer à nouveau solidement l'Église aux yeux du monde d'aujourd'hui. Les résultats sont encore trop loin d'être ce qu'ils pourraient et surtout ce qu'ils devraient être. Au gré du Seigneur, de son vouloir connu et de son pouvoir disponible pour nous. À l'heure actuelle, l'Église ne tranche vraiment pas suffisamment sur tout le reste du monde, sur toutes les autres institutions humaines, sociale, humanitaire. L'Église semble une partie d'une foule d'autres bonnes œuvres, mais pas suffisamment l'arme de salut du monde. Arme irrésistible, déjà victorieuse entre les mains du Sauveur pour sauver l'humanité tout entière. Alors, passons, si vous voulez bien maintenant, à la deuxième chose. L'objectif immédiat numéro un, la priorité des priorités, à mon avis, à notre avis, semble être pour l'Église une nouvelle génération, une prolifération de pasteurs, énergisé et énergisant. C'est le sine qua non, l'indispensable condition pour que Vatican II soit complété et réussi. Que l'Église prophétisée par Jean 23, tant attendue et souhaitée, arrive enfin. Et que l'Église retrouve tout son momentum, l'impact, son leadership, son attrait dans le monde d'aujourd'hui. Et je commencerai, même si j'en ai parlé il y a un instant, par évoquer deux exemples concrets bien connus dans le monde aujourd'hui, deux pasteurs énergisés et énergisants parmi une foule d'autres possibles. Ce ne sont pas les deux seuls. Il y a bien d'autres en place ou en ligne, ici et là, sur tous les continents, dans tous les secteurs et dans tous les niveaux de l'Église. Mais je les évoque tous les deux parce qu'ils sont bien différents l'un de l'autre. Et cela nous permet de voir l'élément essentiel de leur foi. Le premier, c'est Jean-Paul II, parlé. Et le second, c'est Mother Teresa, Mère Teresa. Jean-Paul II, mes amis, nous a touchés. Ou plutôt, lui, le Seigneur, nous a touchés. À travers Jean-Paul II, son apôtre, parce qu'il était énergisé et énergisant. Et cela lui a permis de toucher bien des gens, même des incrédules en Église, incrédules en Dieu, des sceptiques concernant le rôle du pape, la personnalité même de Jean-Paul II, des adversaires de son voyage ici. Ceux qui se disaient, est-ce que ça en vaut le coup, COUP, ou le coup, COUT? Des gens qui ne partagent pas et ne partagent pas encore l'ensemble ou une partie de ses enseignements. Approchez-vous. Il a même touché des prêtres, des religieux, des religieuses et des évêques. Là, vous souriez. Ben, c'est pas plus dire. Vous savez, je vous fais une parenthèse. Plus on est censé savoir, et comme prêtre on est censé savoir, plus on croit déjà de tout savoir, plus la grâce et la lumière de conversion et de libération a de la peine à se frayer un chemin dans la forêt épaisse de nos cerveaux. Et alors, Jean-Paul II est réussissant, c'est un miracle. Vous savez, comme moi, plusieurs ne voyaient pas dans leur aveuglement inconscient ce que Jean-Paul II pouvait ou pourrait bien nous apporter. Après tout, certains l'ont exprimé, vous l'avez lu ou entendu comme moi. Certains ont dit, n'est-il pas un évêque comme les autres? N'est-il pas un homme comme les autres? Or, on avait tout simplement oublié une chose simple et évidente pourtant. Il y a une importante différence entre une personne en autorité et une personne qui fait autorité. Entre l'attirail et l'attirance. Quand un évêque, quand un pasteur et un berger se laissent vraiment attirer lui-même par le Seigneur, il fait nécessairement autorité de par sa grâce. Et se met à attirer à son tour. Cette attraction, ce magnétisme, n'est pas le fruit de son titre ou de son attirail, mais plutôt du renom du Seigneur et de son don à lui. Prenons le cas de Mère Teresa. Elle est humainement bien différente de Jean-Paul II. C'est net. Et ce qu'elle transmet, c'est encore son énergie à lui. Et elle le transmet non pas dans des grands discours style de Jean-Paul II, mais en disant doucement, simplement, les choses connues. Et à travers ça, elle énergise tout le monde de sa puissance avec un grand S. Cette transmission de grâce qui passe à travers elle, la rend elle-même énergisante, car elle est mue par son amour et sa grâce. Et il la recharge, comme Jean-Paul II, à tous les points de vue. Et d'où lui vient cette force comme celle de Jean-Paul II? Tout simplement, elle a tendu son barrage vers lui pour capter son amour. Elle tend les bras par en haut, son énergie en passant dans la turbine de son être et de sa vie, elle est énergisée par l'amour de Dieu. Et alors, quand elle se retourne et tend les mêmes bras vers le monde, ces mêmes bras, l'énergie divine se déverse à travers elle. Demandons-nous donc maintenant, qu'est-ce que c'est? Vous allez m'entendre d'ici la fin de l'enseignement parler de pasteur énergisé puis énergisant. J'ai remarqué que je pourrais dire électrisé puis électrisant, puis dynamisé puis dynamisant, puis valorisé puis valorisant. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on ne trouve pas ça dans les pages, on ne trouve pas ça dans les encyclopédies. Je dirais même qu'on ne trouve pas ça clairement dans notre théologie. Alors, vous allez me permettre de tenter une brève définition de maison, définition Matthieu. Pour moi, un pasteur énergisé et énergisant, c'est celui ou celle qui capte et transmet au maximum possible la force de la lumière, de l'amour, de la fidélité. Cette puissance passe à travers lui dans tout ce qu'il est et, par conséquent, tout ce qu'il dit. Ben, il n'est pas facile de décrire la nature et les effets du ministère d'un pasteur énergisé et énergisant, de celui dont les paroles et les actions semblent jouir d'une onction spéciale du Seigneur. Alors, après avoir bien prié, discerné, communautairement. Pour m'y aider, j'aurai recours à 4 courts textes bibliques parmi 5-6 douzaines possibles. Des textes qui nous donnent, si on en fait l'adaptation, je sais que vous voudrez bien la faire avec moi, à ce qui nous concerne ici, et nous concerne ici, nous donne une bonne idée de ce que c'est qu'un pasteur énergisé et énergisé. Je prendrai un texte de Luc, un court extrait de la Genèse, un texte de Saint Jean et finalement un texte de Saint Paul. Alors, si vous voulez, mettons de côté le dépliant, on n'en aura pas besoin dans cette partie, et prenons en main la Bible. Dans le premier texte, je vous le dis, c'est extrait de Saint Luc 4, 16, 22. 16 à 22. Comme il en avait l'habitude, Jésus entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits apportée par le Seigneur. Et Saint-Luc ajoute, tous lui rendaient témoignage et ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Normalement, tout pasteur d'âme, tout chrétien témoin, devait pouvoir s'appliquer à 100% Voyez, Jésus annonce sous la mouvance de qui? Il donne ses sources. Isaïe. Il dit ce qu'il fait. Cette parole que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Les résultats, tous lui rendaient témoignage, ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Eh bien, mes amis, un chrétien est un chrétien. Un pasteur d'âme est un autre Jésus. S'il puise vraiment ses lumières et ses forces dans le réservoir de grâce du Seigneur, que cette puissance passe vraiment dans la turbine génératrice de son être, le spiritualise vraiment, devrait pouvoir, en demeurant humble et simple, donner lui aussi, avec audace, ses coordonnées spirituelles. Comme Jésus citait Isaïe, lui peut dire, je cite, Jésus. Sa force et son courage, il doit dire où il l'appuie, en Jésus. Madre Teresa et Jean-Paul II le font, et tous les autres énergisés et énergisants le font. Sa mission, la déclare, apporter la bonne nouvelle aux prisonniers, aveugles, affamés, opprimés, à tous les points de vue. Il vient pour mettre fin à leur prise d'otage. Et s'il est ainsi énergisé et énergisant, normal. Fidèles s'étonneront. Message de grâce qui sortira de sa bouche. Saint Marc, complétant le même récit, dit que frappé d'étonnement, de nombreux auditeurs disaient d'où cela lui vient-il? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Il en va de même. Quand, comme prédicateur, on cesse d'étonner, d'intriguer, de déranger, d'interpeller, d'édifier, commençons à s'inquiéter. C'est que l'inodore, l'incolore, sans saveur approche, le sans effet, sans lendemain, on fait. Prenons un deuxième texte. Et celui-là, j'ai été conduit dans le premier livre de la Genèse. On lit ceci, au début de la création. Que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et l'arbre à fruits qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte la semence. Ce fut ainsi, ce fut le troisième jour. Eh bien, mes amis, à mon avis, un pasteur énergisé et énergisant est tout cela sur le plan spirituel. Il est cette terre qui produit l'herbe et des plantes qui portent leurs semences. Il est un arbre à fruits, qui donne des fruits, qui demeure et qui se perpétue, comme on lit dans la Genèse, des fruits qui portent leurs semences à leur tour. Ça me permet ici, justement, me servant de ce texte de la Genèse, d'ouvrir une parenthèse. Les résultats d'un pasteur énergisé et énergisant ne sont pas toujours immédiats et apparents. En effet, leurs fruits sont bons et portent semences, mais il faudra avant que le fidèle soit transformé, que ce fruit meure en eux, et à son tour germe à nouveau. Et ainsi, on a donc tort de n'évaluer le voyage du pape qu'aux fruits immédiatement palpables et évidents. Je vous le dis, mes amis, en tous ceux et celles qui ont été touchés, le Seigneur est à l'œuvre, même si rien n'est encore sorti de terre. Le Seigneur doit souvent partir de loin. Il doit d'abord nous amener à voir, entendre, avant d'ouvrir notre cœur et le transformer. Il faudra peut-être 6 mois, un an, deux ans, cinq ans ou dix ans, pour que l'on voit la grâce qui a touché un tel ou une telle. Et peu importe. Tous ceux et celles qui ont accueilli Jean-Paul II, l'ont vu ou écouté, ont reçu ce que j'appelle l'injection invisible. Et tôt ou tard, on en verra les fruits. Bien entendu, ces gens sont libres et peuvent rejeter la grâce. Mais habituellement, croyez-moi, si le phénomène de rejet n'a pas joué immédiatement, je me base sur mon expérience de ministère, cela veut dire que l'idée a fait déjà un chemin. Et c'est irréversible. La grâce continuera, à moins d'événements importants, transformés et à grandir. On est donc malheureux, je trouve, en Église, d'être toujours anxieux de voir les résultats immédiats. Quand ça ne pousse pas vite, on change, on précipite, on arrache, on recommence. On ne semble pas imaginer, je devrais dire croire, tout ce qui se passe sous terre avant que cela finisse. J'aurais le goût ici de vous dire ceci, je ne sais pas si le Seigneur sera heureux que je révèle publiquement sa stratégie. En parlant d'injection invisible de sa grâce, je suis toujours en admiration avec son doigté. Il ne donne jamais les injections. Chez ceux-là qui travaillent beaucoup, trop ou mal de la tête, qui se posent trop de questions, qui analysent tout, puis qui se préparent là, à remettre en cause bien des choses, le Seigneur leur donne l'injection et des dépenses. Alors, ils ne restent plus avec tout leur schéma, toutes leurs barbelés intellectuels. Puis, à ceux qui ont, au contraire, le cœur chargé, blessé, lourd, froid, distant, qui rejettent a priori les autres, le Seigneur passe à travers un pasteur ou un berger ou un livre spirituel énergisé et énergisé, voyant leur cœur durci. Il leur donne l'injection dans la tête. Il leur pose une question, un doute, une inspiration avec laquelle les autres ont compris. Tout ça admirable de voir. J'ai souvent eu l'occasion de constater ces miracles d'adaptation dans l'action du Seigneur à l'œuvre. Passons à un troisième texte et allons vers dans l'évangile de Saint Jean. Chapitre 10, verset 27, il est dit, mes brebis écoutent et reconnaissent ma voix, et je les connais, et elles viennent à ma suite. Bien, cette affirmation trouve tout son sens quand les fidèles ont devant eux un pasteur vraiment énergisé et énergisé. Ils voient et entendent un tel ou une telle qui parle, et à travers lui. Je dirais même, malgré lui ou elle, les fidèles entendent comme au fond de ce qu'il est, ils entendent proclamer ou proposer, c'est la voix même du vrai pasteur qu'est le Seigneur Jésus. Celui qui a précisé, je suis la porte des brebis, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il ira. Il viendra et trouvera de quoi se nourrir. La porte s'ouvre. Cette porte qui lui donne accès aux réalités célestes. Il se sent sauvé de tout ce qui détruit l'homme et la mort. Il se sent sauvé par le message de salut transmis par ce pasteur énergisé et énergisant. Il se sent sauvé par le Christ. Pasteur. Et chacun des disciples alors retrouve la liberté et la sécurité. Nos fidèles, sachons-le, ont un sens spirituel aigu, un radar spécial et infaillible pour déceler chez nous, pasteurs et bergers, si ce qui sort de notre bouche ou ce qui se traduit en geste est ou n'est pas la voix d'un pasteur. Comme le rappelle Saint Jean, si c'est oui, alors les brebis écoutent et viennent à notre assurance. Si ça sonne faux ou bide, elles font la sourde oreille et regardent. Et voilà ce qui explique qu'en certains lieux, couvents, paroisses, institutions, ici, les ouailles abondent et là, elles abandonnent. Quatrième et dernier texte, vous connaissez comme moi, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 6 à 9, ces exclamations de Saint Paul, « Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Ainsi, celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien. Dieu seul compte, lui qui fait croître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas notre énergie à nous, mais la sienne qui assure la vraie croissance des âmes ou du royaume. C'est donc dire que le ministère d'un pasteur énergisé et énergisant bénéficie d'une onction spéciale du Seigneur. Et qu'est-ce que j'entends par onction spéciale du Seigneur pour la décrire sous un autre aspect? Je dis que l'onction existe lorsque notre action, notre parole, notre initiative comprend les trois éléments indispensables à toute véritable croissance spirituelle continue, sans qu'il nous soit nécessaire à nous d'y pourvoir au fur et à mesure. Pour rester dans l'image employée par Saint Paul de la croissance des plantes, bien, on sait qu'une plante, une fleur, bref, tout ce qui se met en terre a besoin de lumière, d'air, de chaleur et d'eau. Parce que nous sommes limités humainement, il nous faut périodiquement intervenir pour arroser à nouveau, dégager ce qui fait de l'ombre pour que la lumière passe, protéger pour que l'air ambiant donne la chaleur nécessaire à la plante. Et parce que nous sommes limités, il faut le faire périodiquement. Mais sur le plan spirituel, un pasteur énergisé et énergisant peut demander au Seigneur d'assurer les trois d'avance et définitivement dans la foi et la prière. C'est-à-dire demander au Seigneur que lorsqu'il va parler et agir, il le fasse avec le summum de charité, d'amour, de chaleur, la sienne. Qu'il puisse communiquer ce qu'il a à dire ou à transmettre avec toute la vérité, la lumière de la parole de Dieu. Et enfin, compter sur sa grâce continue, son eau vive à lui, le Seigneur, pour arroser au fur et à mesure ce que lui, pasteur, a mis en terre pour le Seigneur. Et quand les trois existent, le geste que le pasteur vient de poser, le texte qu'il vient d'écrire, l'exemple ou le témoignage qu'il donne, l'homélie qu'il vient de prononcer, l'absolution qu'il vient d'accorder, continue à agir, interpeller, transformer par l'action même du Seigneur à l'œuvre, même en l'absence du pasteur. Parce que c'est sa charité au Seigneur, sa vérité, son amour qui a été intégré au point. Et voilà les quatre textes bibliques. Et comme je vous le dis, on pourrait en prendre plusieurs autres, Mais il nous montre un peu ce que c'est. Et je précise immédiatement, alors, pour bien s'entendre, énergiser, pour un pasteur, c'est pas la même chose qu'énergique, actif, vigoureux, résolu. L'Église a toujours eu et a encore des pasteurs énergiques. Des pasteurs qui transmettent leur énergie énergiquement aux autres. Ben, ça fait ce que ça fait. Ça dure ce que ça dure. Mais leur énergie et son énergie, ce n'est pas la même chose. L'énergie qu'il y a en soi est bonne. C'est un talent à utiliser à bon escient, d'accord. Cela donne du ton, de la conviction. Cela peut impressionner, entraîner, faire réagir. Mais tout cela ne crée pas une once, un gramme de vie spirituelle pour l'esprit. L'énergie dont je parle, c'est celle qui, de par l'action divine, elle-même, après avoir passé et œuvré en moi, passe à travers moi, pour ainsi dire, et continue son œuvre à même ce que je dis, je fais, j'initie, je confirme, en son nom, sous la mouvance de son esprit. Appelons ça comme on voudra. Le pasteur ainsi énergisé devient à son tour énergisant. En fin de compte, ne jouons pas au mystérieux. Être énergisé et devenir énergisant, c'est posséder une vie intérieure telle qu'elle engendre à son tour la vie intérieure chez les autres. Un pasteur ne fait œuvre valable et durable que s'il engendre les âmes à la vie intérieure. Seul le pasteur vraiment intériorisé lui-même a assez de vie pour produire d'autres foyers de vie féconde. Tant qu'un pasteur n'a pas produit cela chez lui, chez les autres, son action demeure éphémère et instable. Or, la vie intérieure n'existe là seulement où le couple turbine génératrice accueille vraiment les grâces du Seigneur au pied de son réservoir d'amour. Alors la vie intérieure attire les bénédictions de Dieu, elle rend l'apôtre sanctificateur, elle produit le rayonnement surnaturel et donne la vraie éloquence. Et le bobo aujourd'hui, c'est que la vie intérieure est méconnue et parfois fuie par certains pasteurs ou bergers ou leaders. En certains lieux, on croit même que c'est dépassé. Que la vie intérieure qui découle forcément de la vie eucharistique, ça a fait son temps. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le culte de l'action et de le souci de se livrer à fond hors de soi. Et quel mirage, mes amis. Dire que ceux qui sont comme ça se croient souvent d'avant-garde. Or, ces vieux jeux. C'est au contraire un inquiétant retardement sur ce qui est déjà sous nos yeux en Église et sera de plus en plus. Je dirais que c'est presque de l'analphabétisme spirituel. On peut retrouver parfois, même chez les gens lettrés en sciences théologiques et religieuses, l'analphabétisme spirituel. Les empêche de pouvoir mieux lire ou décrire les signes des temps. Vous savez, ce livre qui existe depuis le début du siècle, L'âme de tout apostolat, de Don Chautard, un trappiste, ouvrage qui a été acclamé dès les débuts par Benoît XV, puis X et bien d'autres, est toujours, même après 80 ans, d'une très grande actualité. Si on ne comprend pas ça, on risque de vouloir donner au voyage de Jean-Paul II, des suites purement humaines. Je sais que dans bien des milieux, on s'interroge ici et là sur le suivi à donner à la visite du pape. jeu de mots, j'aurais le goût de dire, le meilleur suivi, c'est que le pape soit suivi. C'est d'aller à sa suite, remonter à la source, là même où lui-même reçoit son énergie et revitalise son apostolat. Cherchons ça d'abord comme lui, et tout le reste nous sera donné par surcroît. Chers amis, je voudrais cependant rendre hommage en terminant cette partie à tous mes frères et sœurs qui sont déjà bien branchés sur le réservoir, qui sont déjà eux-mêmes énergisés par lui-même et deviennent énergisants pour les autres. Et je leur dédie, en terminant cette cassette, ce court texte d'Isaïe. Mon frère, ma sœur, dirait Isaïe, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il te comblera et te rendra vigoureux. Il sera comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires, on t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les routes. Amen. Alléluia.